Radio Courtoisie, histoire à la loupe. Aujourd'hui, voici l'histoire d'Ératosthène, le Nobel posthume, une émission de Radio Courtoisie, récit, montage et arrangement sonore, Jean-Édouard Kerbidi.
Je suis un enquêteur un peu spécial, chargé par le bon Dieu de décerner le prix Nobel de physique à titre posthume aux bienfaiteurs de l'humanité. Parfois, c'est très anciennement posthume. Un peu trop, même, peut-être. Mais, enfin, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je ne fais qu'enquêter et rapporter. Mais je ne vais pas me dérober à ma mission, Chega. C'est pourquoi je suis venu vous voir, monsieur Ératosthène. D'abord, je dois vous l'avouer, je ne sais pas trop comment il faut vous qualifier professionnellement. Êtes-vous un savant? Êtes-vous un mathématicien? Êtes-vous un astronome? Un géographe? Un philosophe, peut-être?
À mon époque, c'était au IIIe siècle avant votre ère, la distinction entre toutes ces professions n'était pas aussi nette. Et puis, tout me passionnait. J'étais un peu comme vos honnêtes hommes, 19 siècles plus tard. Je reliais les disciplines entre elles au nom du désir inépuisable de tout comprendre, car tout se tient. Vers 250 avant Jésus-Christ, on nous appelait des pentatlos. C'est pourquoi mes professions ont été multiples et incluaient toutes celles que vous venez de mentionner. En plus, j'ai changé de métier à la fin.
Et c'était quoi ce changement?
J'étais bibliothécaire.
C'est plus modeste.
Pas vraiment, car j'étais le gardien du savoir à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Il faut que vous imaginiez l'ampleur du projet. Des textes venus de toutes les contrées connues sont rassemblés, copiés, étudiés par les érudits. Un temple magnifique, superbe, avec ses colonnes grecques de style hellénistique, ses statues, ses jardins et ses salles de réunion où l'on peut lire tranquillement les rouleaux à voix haute.
À voix haute?
Oui, on lisait alors à voix haute, car votre imprimerie n'existait pas encore et ne permettait pas une vaste diffusion de textes qu'on lit maintenant à l'œil plutôt qu'à la voix.
Ça devait être fatigant de lire à voix haute.
En tout cas, c'était une méthode bien pratique pour prendre connaissance du contenu d'un rouleau à plusieurs sans gêner les autres.
Ah, c'est une sorte d'ancêtre de nos audiolivres.
C'est un peu ça. Bien pratique pour transmettre des connaissances. Donc, j'organisais toutes ces séances.
Finalement, votre fonction avait l'air prestigieuse.
Mais ce n'est pas elle qui m'a donné le plus de satisfaction.
Mais c'est quoi alors?
C'est la découverte que j'ai faite un jour.
Par un innocent hasard?
Non. Par chance, le hasard n'est jamais innocent. Béni soit Athéna et Apollon de m'avoir mis sur la voie. Je fus touché grâce aux idées ambiantes, celles de nos prédécesseurs qui nous influencent tous.
Racontez-nous cette découverte.
Eh bien, voilà. Je consultais un rouleau qui racontait une drôle d'histoire. À l'occasion d'un séjour à Sienne, ville située au sud d'Alexandrie, à peu près sur ce que vous appelez le tropique du cancer, ville que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Assouan. Ah, laissez-moi faire une petite parenthèse. À côté d'Assouan, se trouvent les fameux colosses ramessides, qui avaient le pouvoir de chanter.
De chanter ? Comment est-ce possible ?
Par un subtil jeu de crevasses et de canalisations internes, le vent, en s'infiltrant, leur insufflait le pouvoir de chanter. Enfin, ça c'était avant le déplacement des colosses pour construire un barrage. Désormais, ils ne chantent plus.
Progrès ou poésie, il fallait choisir. Mais revenons à notre histoire.
Oui, à Sienne donc, au solstice d'été, vers midi, éreinté par la chaleur écrasante du zénith de Ra, quelqu'un se rendit à un puits pour y étancher sa soif. Or ce jour-là, cet assoiffé s'aperçut qu'aucune ombre n'y était projetée et que les rayons solaires atteignaient directement le fond du puits. Il existerait donc un puits profond où, une fois l'an, lors du solstice d'été, les rayons du soleil sont parfaitement à la perpendiculaire du sol à midi.
Parce que cela n'est arrivé que ce jour-là ?
Oui, autrement, il y a toujours un peu d'ombre, donc je me suis interrogé. Ce phénomène est-il identique à Alexandrie ? Il faut observer la chose, au solstice d'été. Donc j'attends, j'observe et je constate qu'à Alexandrie, les rayons du soleil ne sont pas perpendiculaires au sol, contrairement à ceux de Sienne. Et les objets projettent bel et bien une ombre.
Avez-vous été étonné, intrigué ?
Pas du tout. Car j'avais une petite idée derrière la tête. Vous savez, ce genre d'intuition, de fulgurance qui vous saisit tout d'un coup.
Une hypothèse ?
Une hypothèse ne suffit pas à la science. La science, c'est la preuve. Or, la preuve, je ne l'avais pas.
Qu'aviez-vous fait alors ?
J'ai pris un bâton parfaitement droit et dont on connaît précisément la longueur. On appelait cela un gnomon. Je le pose verticalement, je mesure la longueur de l'ombre projetée sur le sol très plat, très horizontal, je calcule l'angle formé par l'ombre et j'en déduis la valeur de l'angle formé par les rayons du soleil et le gnomon.
Et qu'avez-vous trouvé ?
Environ 7 degrés, soit 1/50 d'un cercle complet. Si vous divisez 360 degrés, le cercle, par 7,2, vous obtenez 50.
Je vérifie. Oui, exact. Mais qu'est-ce que cela prouve ?
Cela prouve que mon hypothèse de la sphéricité de la Terre est fondée. En effet, si la Terre est plate, Cet effet serait identique dans les deux villes, Alexandrie et Sienne. Or, la différence d'ombre, en l'occurrence présence d'ombre dans un cas, absence d'ombre dans l'autre, suggère bien une courbure de la surface terrestre. Une autre idée m'est venue alors. Si je peux déterminer la distance entre Sienne et Alexandrie, je pourrais alors en déduire la circonférence de la Terre.
Un projet bien ambitieux, pour ne pas dire prétentieux.
Oui, il fallait que je me tourne vers des bématistes. Vous connaissez les bématistes ? Ces arpenteurs qui mesurent les distances longues entre deux points. On parle de centaines de vos kilomètres d'aujourd'hui, n'oubliez pas. Et comment font-ils ? Eh bien, tout simplement en comptant les pas que font leurs dromadaires. Si, si, les dromadaires, comme les chameaux, leurs cousins d'Asie, sont réputés pour avoir un pas très régulier. Pour les distraits qui n'auraient pas compris ce que je suis en train d'expliquer, en gros, ils parcourent à chaque fois la même distance à chaque pas. Il suffit donc de compter les pas d'un dromadaire sur une distance donnée, de mesurer la longueur d'un de leurs pas et de multiplier le tout pour avoir la distance totale.
Et les bématistes se sont mis en route à votre demande ?
Oui, ils étaient eux-mêmes intéressés par l'expérience d'un tel voyage.
Combien de temps cela a-t-il pris ?
50 jours à vitesse de dromadaire. Ils ont alors évalué la distance entre Alexandrie et Sienne à environ 5000 stades. Sachant que l'angle mesuré grâce au gnomon est d'un cinquantième de cercle, il suffit de multiplier cette distance par 50 pour obtenir une estimation de la circonférence terrestre. J'obtiens alors un résultat de 250 000 stades. J'arrondis ce chiffre à 252 000 stades pour faciliter les calculs, mais vous en conviendrez, cette minuscule approximation reste impressionnante. La grandeur du stade variant selon les régions, il est difficile d'affirmer avec précision quelle était la valeur exacte de ma mesure en kilomètres modernes. Toutefois, en prenant une estimation raisonnable du stade grec d'Olympie d'environ 157,5 mètres, ma mesure correspond à environ 39 375 kilomètres. Très proche, en l'occurrence à peine 700 kilomètres de différence, avec les 40 075 kilomètres aujourd'hui acceptés par vos méthodes modernes, par ces satellites, ces lasers, toutes ces fantastiques merveilles technologiques dont je ne pouvais imaginer ni rêver l'existence à mon époque.
Je crois qu'Aristote s'est aussi lancé dans ses calculs.
Oui, mais le grand Aristote, pour lequel j'ai une fervente admiration, je vous le dis tout de suite, le grand Aristote s'est quand même trompé. Il a estimé la circonférence à 400 000 stades, près de deux fois sa taille réelle.
Et c'est vous qui l'avez trouvé, cette taille réelle.
Eureka ! Comme Archimède, quand il a compris la poussée verticale des corps plongés dans un liquide, poussée égale au poids du fluide déplacé. Vous voyez, on peut trouver, grâce au seul pouvoir de l'observation et de la raison.
Il faut vous le reconnaître, en scrutant le ciel et à l'aide d'un simple bâton et d'un dromadaire, vous avez révélé l'immensité de notre Terre. Ce savoir transmis à travers les siècles pave la voie des explorateurs, des astronomes et des cartographes. Bravo pour cet exploit.
Hein ? C'est un peu grâce au rouleau où l'histoire du puits figurait.
Comment vous êtes-vous trouvé propulsé à la bibliothèque d'Alexandrie ?
Oh, vous savez, beaucoup de Grecs habitaient Alexandrie, qui n'était pas très loin de chez nous. Voilà, c'était un matin de printemps, lorsqu'un messager du pharaon Ptolémée III Evergète vient me proposer de devenir le précepteur de son fils, le futur pharaon donc, puis de diriger la célèbre bibliothèque et enfin de l'enrichir du savoir universel nouveau.
Comme la chouette d'Athéna qui prend son envol au crépuscule, vous arrivez en somme un peu après tout le monde. Après le siècle de Périclès, après celui d'Héraclite, après Platon, Aristote et tous les autres. Et bien sûr, après Homère.
Ah, Homère. Mon professeur Lysanias me l'a enseigné.
Nesae patros oioteois, epiei kelakileu, telikuos peregon oloi epigaraos ondoi. Kai mem pukenom perinaietai ampise ontis teros audetis estinaren kai loegon amonai. Αλέτοι καινούς γεσέτενς δόντος ακόων καίρετεν του μόι. Ακυλέου, να σαμενός ο πατρός εγώ δελένο τέρος πυρ ιτλενούι ουπό της επικτονιούς μπρούτους αλλούς άνδρους. Παιδοπονόιο ποτίστο μακύρ ουρίγισταϊ.
Merci, cher monsieur Ératosthène. Je vais faire mon rapport aux autorités qui m'ont missionné. Je ne vous dirai pas ce que j'y mettrai, car c'est confidentiel, mais mon petit doigt me dit que vous en avez certainement intuition.
Thank you.
Sur Radio Courtoisie, vous venez d'entendre Ératosthène, le Nobel posthume. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle Histoire à la loupe. Histoire à la loupe.